Merci pour cette, pour l'introduction qu'a fait Pierre Cornette-Saint-Cyr sur justement Second Life, puisque je vais justement vous parler du cyberespace et des alternatives qui nous sont proposées. Parce qu'évidemment, comme tout un chacun, nous ne sommes pas des cosmonautes et nous ne pouvons pas partir dans l'espace et faire vivre cette grande aventure en grandeur réelle. Donc qu'est-ce qui nous reste à nous, pauvres terriens? Eh bien, c'est l'imaginaire. Donc moi, je me présente, je suis un noonaute, non pas un cosmonaute, mais un noonaute, c'est-à-dire que j'explore l'espace de la noosphère, la sphère de l'information, à la fois d'une façon rationnelle et aussi d'une façon métaphysique, comme l'avait investi Pierre Teilhard de Chardin. Alors, dans ce premier voyage, en fait, c'est dans ce petit voyage que je vous propose, nous allons visiter le Noho Museum. C'est-à-dire, c'est un musée virtuel qui est dans le cyberespace, dans différents endroits du cyberespace, dont j'ai apporté un petit morceau ici, que nous allons traverser assez rapidement, parce que ça prend plusieurs heures, hein, d'explorer le Noho Museum, qui se répartit dans différents endroits du cyberespace qui sont inspirés de la conquête spatiale, hein, puisque c'est un musée virtuel qui est dans un monde. Je dirais quantique, qui fonctionne à l'infini quelque part, une anomalie quantique dans notre univers, qui est fait de rochers volants dérivés dans les airs avec des dragons multicolores qui se baladent dedans. Mais ça date d'il y a quand même 20 ans comme concept. Alors, la conquête de l'espace a eu des effets très pernicieux. Quelque part, nous avons été très influencés, nous, je dis nous, les artistes, par cette conquête de l'espace qui nous a amené à imaginer des choses qui sont parfois complètement déconnectées de la réalité de la conquête de l'espace. Alors je vais déjà avancer dans le Noho Museum. Donc vous voyez, voilà, c'est ça. Donc là, je suis dans la partie du Noho Museum. Ah oui, voilà, c'est ça. Il me faut une souris. Excusez-moi, c'est les défauts de la technologie. Et alors vous voyez, je suis un avatar. Et quand je clique sur le bouton, je projette des livres. Au lieu que ce soit une arme qui tire, je projette des livres. Et ces livres, ce sont le livre de Norbert Wiener. Ah, évidemment, j'ai un problème technique, donc je vais le faire avec la trackpad. C'est le livre de Norbert Wiener, Cybernetics. Ça me permet de me défendre contre toute attaque de créatures noosphériques qui pourraient venir sur notre chemin. Alors, je rentre dans le Noho Museum et le premier tableau que je vais rencontrer, en fait, ce que vous voyez, le Noho Museum est aussi un support à conférence, un tout petit peu plus ludique que PowerPoint. Et ce que vous voyez, c'est un des premiers éléments importants, je trouve, dans notre histoire par rapport à la relation, histoire contemporaine, hein, par rapport à l'espace, c'est le mot cyborg. Le mot cyborg, qui veut dire organisme cybernétique, nous vient de deux chercheurs. Hein, en psychologie, en psychiatrie et un chercheur en data en informatique, qui vont en 1960, donc c'est assez vieux, à la fois récent et vieux, vont imaginer le principe d'un organisme cybernétique pour la conquête de l'espace. C'est-à-dire, c'est un article qui paraît dans Astronautics. Et dans cet article, ils disent que l'homme ne pourra pas, dans notre nature, telle que nous sommes là actuellement, survivre dans l'espace. Il faudra qu'on se transforme. Alors c'est quelque chose qui est très présent, hein, dans notre modernité, le fait qu'on va briser l'intégrité de notre organisme, de notre tradition organique, on va dire, pour nous transformer. Donc c'est le premier principe du cyborg. Alors c'est assez amusant. Attendez, je vais cliquer sur le bouton qui me permet, voilà, de me connecter sur le document. Donc je vais vous relire juste la traduction, hein, que j'ai faite assez rapidement de la première page de leur texte. Quels sont les artefacts nécessaires à la création d'un système homme-machine autorégulé? Cette autorégulation doit fonctionner sans nécessité consciente pour pouvoir collaborer avec les contrôles homéostatiques autonomes du corps. Pour ce complexe organisé, exogénétiquement développé, fonctionnant inconsciemment comme un système homéostatique intégré, nous proposons le terme de cyborg. Le cyborg incorpore délibérément des composants exogènes qui étendent le contrôle des fonctions autorégulatrices de l'organisme de façon à l'adapter à un nouvel environnement. Si un homme dans l'espace, en plus de piloter son véhicule, doit continuellement vérifier des choses et faire des ajustements seulement pour pouvoir se maintenir en vie, il devient un esclave de la machine. la fonction du cyborg comme de son propre système homéostatique et de fournir un système organisé dans lequel les problèmes de type robotique sont automatiquement et inconsciemment pris en charge, laissant l'homme libre d'explorer, créer, penser et sentir. Donc l'homme, le futur cosmonaute, en 1960, est un être qui va être relié à tout un tas de mécanismes qui vont lui permettre de survivre et même de ne pas se préoccuper de sa survie. Alors, ce texte est consultable sur Internet, il est passionnant. En gros, je vous résume ce qu'ils imaginent. Donc, injection automatique. Alors, étonnamment, contrairement à l'image du cyborg qu'on a tous dans l'image, qui est le personnage avec un peu à la Terminator, avec des bras mécaniques, là, on a droit plutôt à l'utilisation comme technologie de drogue. Donc, injection automatique de drogue pour réduire les effets nocifs des radiations. Hypothermie, c'est ralentir la température pour ralentir le rythme de vie des astronautes et réduire leur consommation énergétique. Supprimer la nécessité de respirer par un système énergétique nucléaire ou solaire. Supprimer les échanges de fluides intérieur et extérieur. Il précise pas trop comment on va résoudre ce problème-là. Contrôler les enzymes pour pouvoir utiliser des atmosphères alternatives, c'est-à-dire modifier nos enzymes pour que, selon les planètes dans lesquelles on atterrit, on va respirer différemment. Modifier les fonctions cardiovasculaires par l'usage de drogues ou stimulation électrique dans le cerveau. Et il donne la liste des drogues, là, par contre. Épinéphrine, réserpine, digitale, amphétamine, etc. On est vraiment dans les années 60. Et compenser l'atrophie musculaire, toujours par l'injection de drogue, compenser les phénomènes de perception, bon, je passe, réduire la température intérieure du corps pour réduire le risque de dépressurisation fatale, et surtout, très important à la fin, injection de drogue spécifique pour éviter les épisodes psychotiques. C'est-à-dire qu'évidemment, nos astronautes confinés dans leur boîte dans l'espace vont faire des crises psychotiques qu'il va falloir compenser. Donc c'est assez intéressant, ce texte, donc, c'est de là que vient le concept de cyborg, va se répandre, le concept de cyborg va se propager, et je vais sauter plusieurs années, je retourne dans nos muséums, et on va quitter donc nos deux chercheurs Klein and Kleins pour aller... Alors je fais une petite aparté, comme ça, pour le fun, parce que c'est pas un cyborg, mais c'est un robot, mais ça fait rien, pour montrer l'histoire des transformations de l'homme ou des créatures artificielles à notre image, c'est le mythe d'Héphaïstos, Héphaïstos, Vulcain, et on a un très beau texte dans l'Iliade, très très beau texte dans l'Iliade, alors je vous passe un certain nombre de détails, mais celui-là est très très bien. Donc on a un chroniqueur qui arrive dans la forge d'Héphaïstos, et il dit « Des servantes s'empressaient pour soutenir le prince, toutes d'or, mais semblables à de jeunes vivantes, elles ont un esprit dans leur diaphragme, elles ont la voix, la force, et les immortels leur ont appris à agir, à soutenir le roi, elles s'empressaient donc, etc. etc. » Donc on a une description dans l'Iliade de créatures artificielles en or, à qui les immortels ont donné, donc on est de la science-fiction, puisqu'il y a une description technique, qui vont assister l'humain, en l'occurrence d'ailleurs, dans la fabrication d'armes. Voilà. Donc c'est un vieux mythe, c'est-à-dire nous sommes habités déjà depuis très longtemps par le mythe de la créature artificielle. Alors je continue d'avancer, et là j'arrive beaucoup plus tard, 1991, par un moment extraordinaire, qui est très important dans notre histoire contemporaine, qui est lié aux gender studies. Donc c'est le manifeste du cyborg de Donna Haraway. Donna Haraway est une chercheuse qui travaille en zoologie et philosophie, qui a la chaire d'histoire de la conscience à l'Université de Californie à Santa Cruz, qui a été primé, et qui va écrire un texte magnifique qui s'appelle « Le manifeste du cyborg », donc en 1991. Alors là, pareil, je vais aller cliquer sur le petit bouton qui me permet d'activer voilà, le texte. Alors je vais vous en lire des extraits du manifeste du cyborg. Donc Donna Haraway, qui est une figure emblématique des gender studies, va se servir du concept de cyborg, d'organisme cybernétique, pour proposer une sorte d'emblème à une alternative de repenser la femme, parce qu'elle est féministe, de repenser la femme, de se repenser en tant que femme dans notre société. Le cyborg est un organisme cybernétique hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. La réalité sociale est le vécu des relations, notre construction politique la plus importante, une fiction qui change le monde. C'est très important dans le mouvement queer, comme dans le gender studies, de tenir compte du fait que nous sommes le produit de notre culture et que nous pensons comme notre culture nous l'a déterminé. Les divers mouvements féministes internationaux ont autant construit l'expérience des femmes qu'ils ont mis à découvert ou fait la découverte de cet objet collectif crucial. Cette expérience des femmes est une fiction et un fait de la plus haute importance politique. La libération nécessite que l'on construise la conscience de l'oppression et des possibles qui en découlent, qu'on les appréhende en imagination. Alors je passe, parce que je ne vais pas rester trop longtemps sur Manifeste du cyborg, qui est un monument emblématique d'une révolution qui se produit en ce moment. Mais en gros, l'idée sous-jacente qu'il y a derrière le gender studies, c'est que nous sommes, maître de notre identité, et en particulier de notre identité sexuelle. Nous pouvons nous affranchir grâce à cette extraordinaire flexibilité du cerveau à laquelle Pierre Cornelis de Saint-Cyr a fait référence tout à l'heure. Nous aurions, alors après c'est à discuter, mais le pouvoir de nous affranchir, en particulier dans les inégalités hommes-femmes, entre autres, de nous affranchir des déterminismes d'une société androcentrée et hétéronormée. Alors, ce concept de Donna Haraway, de dire que nous sommes tous des cyborgs, outre le fait qu'elle inscrit dans un combat féministe, est passionnant du fait que, en fait, il raccorde au fondement même de quelque chose qui est peu connu, qui est les concepts de Norbert Wiener. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller un peu plus loin dans le Noho Museum, qui est donc en orbite. Ça, c'est une molécule de carbone 60 qui traîne là. C'est parce que j'ai fait une conférence au Palais des Découvertes sur la nanotechnologie. Du coup, il traîne encore des trucs dans le Noho Museum que je n'ai pas nettoyés. Alors voilà. Donc Norbert Wiener, 1948, invente, on peut dire que c'est un vieux terme, qui date de Platon, mais va le populariser et va populariser la cybernétique. Et le concept moderne de la cybernétique. Alors, peu de gens, alors ici je pense qu'il y en a quelques-uns, mais en fait vous constaterez quand vous posez la question aux gens d'où vient le mot cyber, de cyberpunk par exemple, eh ben, la plupart de nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quelles sont les origines, ce que signifie cyber. Et souvent on associe le concept de cyber à robots, machines, informatique, hackers, etc. Pas du tout. Alors, Norbert Wiener donc, est un mathématicien, et on oublie souvent aussi que c'est non seulement un mathématicien célèbre, mais c'est aussi, c'était quelqu'un qui avait un diplôme de zoologie et qui enseignait la philosophie à Harvard. Wiener est en charge de résoudre le problème technique qui est d'asservir les batteries de radar pendant la Seconde Guerre mondiale, les batteries de DCA au radar. C'est-à-dire, il faut qu'un radar, lorsqu'il détecte un avion, la batterie de DCA pointe direct sur cet avion. Ça va être résolu, donc, après la guerre, par les algorithmes de la cybernétique, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que Wiener, lorsqu'il va commencer à expliquer ce qu'est la cybernétique, va partir dans une réflexion philosophique. Et donc il va décrire un truc mathématique concernant les mathématiciens et les chercheurs, mais il va dire, entre autres, alors je vous le résume pour aller vite, il faut arrêter de raisonner, on a une cible, hein, on a une cible, on vise et on tire. Ça, c'est old fashion, c'est has-been. Il faut raisonner, il faut que deux objets soient au même endroit au même moment. Pour que ça soit possible, il faut qu'un des objets ait des capteurs, même sommaire, un système de traitement de l'information, un moteur derrière, un système moteur qui lui permet de changer son orientation. C'est le principe du missile. Là où ça devient très intéressant, c'est que Wiener dit, ben voilà, ce principe-là, capteur, moteur, analyse du comportement, changement de direction, c'est le principe du feedback, tout ce qui est vivant fait ça. C'est-à-dire, Wiener va tout d'un coup, très indirectement, par la voie de la science, proposer une nouvelle définition du vivant, et en particulier de l'humain. Ce qui est important, ce ne sont pas les capteurs. Un tigre, un lion, un aigle sont bien mieux adaptés que nous, ont des capteurs ou des systèmes moteurs bien plus puissants et perfectionnés, par exemple, que les humains. Ce qui est important, c'est le système de traitement de l'information qu'il y a entre les deux. Plus un organisme, alors Wiener dit, plus un organisme aura un système de traitement de l'information élevé, plus il sera haut dans la hiérarchie du vivant. Ça, c'est la base même de la pensée cybernétique. De fait, tout ce qui est vivant est de nature cybernétique. Donc, nous sommes tous, de toute façon, d'un point de vue littéral de la cybernétique, déjà des cyborgs, c'est-à-dire des organismes cybernétiques. Donc ça, c'était la petite aparté vers Norbert Wiener. Donc, sachant que nous sommes tous des cyborgs, on peut rejoindre le concept de Donna Haraway, c'est qu'il n'y a pas, l'idée de Donna Haraway, c'est qu'il nous faut arrêter, dans notre modernité, d'essayer de dissocier l'humain du règne animal et, de l'inverse, des créatures artificielles. Nous sommes tout à la fois animal, humain et créatures artificielles, donc cyborg. Ça, c'est, on va dire, une façon d'interpréter et d'analyser le concept de cyborg chez Donna Haraway. Alors, je vais un peu plus loin. Donc, c'est un petit voyage que je suis en train de vous faire. Il me reste 15 minutes, donc ça va, j'ai juste un peu de temps. Donc, la conquête de l'espace, à travers des concepts, par exemple, comme le cyborg, va influencer toute notre culture, toute notre histoire, tous nos arts. On va avoir des films, des documents. Donc, moi, c'est infini d'explorer le concept de cyborg. Là, je vais juste vous proposer un personnage que j'ai fait, pour lequel j'ai eu un prix, donc Sthéno, qui est la gorgone de la perversion sociale dans la mythologie grecque. Et Sthéno, donc, vous voyez, c'est un cyborg. C'est un cyborg qui a des tentacules et elle n'a plus de bras, tout simplement pour évoquer ce futur, où justement Pierre Cornelis de Saint-Cyr l'avait encore évoqué. Dans 2 milliards d'années, eh ben, le Soleil fait en sorte qu'il n'y a plus de vie dans ce coin-ci du système solaire. Et il va falloir, ça c'est incontournable, qu'on se transforme pour pouvoir survivre dans l'espace et amorcer cette conquête de l'espace. Et du coup, un mythe, quel est le mythe du déluge ? C'est-à-dire qu'en fait, le déluge, le mythe du déluge, pour moi, n'est pas un mythe qui a eu lieu, D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un mythe où on apparaît dans le mythe du déluge pour la première fois le concept d'avatar. C'est-à-dire que la première fois qu'un avatar se présente sur Terre, c'est un avatar de Vishnu, qui est un petit poisson, qui vient prévenir un pêcheur que va y avoir un déluge. Enfin, je vous passe toutes les étapes de l'histoire, qui va le prévenir qu'il y a un déluge et qu'il faut qu'il se dépêche de sauver la vie, en fait, de prendre un couple de chaque espèce et de chaque plante dans un grand bateau pour sauver la vie de ce déluge. Donc c'est intéressant, hein, c'est dans la mythologie hindoue, avant la Bible, on a déjà les ferments du déluge et on a déjà le concept d'avatar, puisque c'est un avatar de Vishnu qui viendra prévenir ce pêcheur. Et le déluge, ben, c'est que nous tous, là, en fait, en gros, nous sommes investis de ce mythe qui est de sauver l'humanité. Le déluge, pour moi, n'est pas un mythe de quelque chose qui a eu lieu, mais de ce qui va se passer. Nous sommes préprogrammés par quelque chose de culturel qui se transmet depuis l'aube des temps vers un but, sauver la vie. Et donc la conquête de l'espace s'inscrit dans ce mythe-là. C'est-à-dire pourquoi nous investissons autant d'énergie à envoyer des fusées dans l'espace. C'est à la fois pour découvrir, savoir qu'est-ce que c'est cet espace, mais aussi nous sommes au fond de nous investis de cette espèce de préprogrammation de nous échapper du système solaire avant sa fin. Donc, Céno représente ce moment où ce personnage, c'est une allégorie, est en train de regarder la fin de l'univers, et elle n'a plus besoin de bras puisqu'elle vit en osmose avec l'ensemble de ses systèmes technologiques, mais elle est très sexy. C'est important, elle est très sexy, parce que sauver la vie a utilisé un système, alors excusez-moi si je vais aborder donc un sujet un peu trivial, s'il y a des enfants dans la salle, il faut faire attention, c'est que la vie fonctionne avec un système qui s'appelle la sexualité. Et donc la conquête de l'espace n'est pas du tout affranchie d'une dépendance à la sexualité, du moins en imaginaire. Donc, si vous regardez bien la fesse gauche de Steno, elle a un symbole ici qui représente, que j'ai reproduit là ici en grand, qui représente en fait ce passage des micro-organismes, comme la cellule qui est à gauche. La vie passe du microscopique au macroscopique, est sortie de la Terre, arrive sur Terre, continue. On a des grands diplodocus avec des grands lancoles, mais en fait, vous pouvez le constater, il n'y a pas d'arbre qui relie la Terre à la Lune. C'est-à-dire qu'il y a un truc technique qui fait que la vie ne peut pas partir dans l'espace comme ça. Du coup, la seule espèce actuellement qui est capable de partir dans l'espace, c'est nous, ce sont les humains. Qui pouvons donc amener la vie ailleurs. Et juste une petite image comme ça qui rejoint aussi cette magnifique intervention très passionnante sur l'histoire médiévale et sur le fait que l'homme a vraiment le regard braqué vers les étoiles depuis au moins, je dis le Moyen-Âge, mais sinon longtemps avant. Alors, je vais zapper un certain nombre d'autres choses. Et alors là, du coup, je vais quitter, je vous disais, la sexualité. La conquête de l'espace et la sexualité sont intrinsèquement liées. Et on va justement quitter, alors on va aller dans une autre partie du Noumuséum. Voilà, donc je quitte ce niveau du Noumuséum et je vais démarrer un jeu vidéo qui s'appelle Unreal Tournament. Voilà, alors j'ai aussi détourné Unreal Tournament pour m'en servir comme support à conférence en 2003-2004. Et là, je vais vous faire visiter très vite, parce que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout de tout ce que j'aurais aimé vous faire visiter. Mais on va essayer, on va quand même essayer de terminer par Second Life. Mais je vais vous faire visiter les galeries du Noumuséum dans Unreal Tournament, et en particulier très vite les galeries qui sont consacrées à l'influence de la conquête de l'espace sur la sexualité. Si, j'ai fait ça. Alors je fais quoi ? Déjà je fais jouer, voilà. Donc j'ai désactivé les bots, mais le niveau, et on peut se fraguer, hein, c'est pour ceux qui voudraient, vous me demandez, je vous file le niveau, et même s'il y avait quelqu'un connecté avec un autre ordinateur là, on pourrait aller se tirer dessus dans les couloirs, ce qui arrive d'ailleurs dans les festivals de science-fiction, où régulièrement quand je fais des conférences, il y a des mômes qui débarquent parce qu'ils sont connectés sur le Noumuséum d'un autre point, et je me fais exploser dans le Noumuséum. Mais c'est authentique, hein, c'est authentique. Alors là, par contre, ça n'arrivera pas parce que j'ai désactivé les bots, mais vous voyez, les armes sont encore actives. Alors non, je ne vais pas sortir, donc on est toujours dans le Noumuséum, et je vais descendre. Alors le problème, c'est ça, c'est que c'est un peu aléatoire, les zones d'arrivée. Alors quand vous avez le mal de mer, arrêtez de regarder l'écran, parce que je vais aller vite. D'habitude, je prends un peu plus de temps, mais là, il faut que je descende jusqu'au premier sous-sol pour aller dans la... Attention, on va tomber dans le trou, là. Voilà. Ah, oh zut, je suis mort. Mais par contre, coup de chance, j'ai réapparu, je pense, à un bon endroit. Est-ce que je suis là où il faut ? Excusez-moi, je suis perdu dans mon labyrinthe. C'est terrible. Où est ?
Lost in space.
Voilà, c'est ça. Où est l'entrée ? Ah zut, je suis au dernier sous-sol. Excusez-moi, je suis perdu. Je voulais vous montrer une zone très particulière. Alors attendez, est-ce que je peux remonter par là ? Non, je vais redescendre, mais ça revient au même. Voilà, là je ne suis pas mort. Donc je vais aller rejoindre la partie qui est consacrée donc, je crée le suspense, hein, je fais languir les choses, donc j'avance, et j'arrive dans cette partie qui est très rigolote. Ouais, ça va aller, je vais avoir le temps de tout faire. Hop, voilà. Donc, première métaphore originelle, alors s'il y a des enfants dans la salle, c'est le moment de les faire sortir. Hein. Donc, dans notre histoire, il y a deux choses qui ont une forme particulière, que vous reconnaissez d'emblée. On peut considérer, alors dans la réalité je ne sais pas, mais chez les artistes, en tout cas les artistes, ils ont bien compris ce truc-là. Et moi j'ai tendance à dire que les premières résurgences de ces formes-là, ça va être le dolmen, qui est un arche dans lequel on pénètre, et le menhir, qui est donc la pierre dressée similaire au phallus. À partir de là, on va retrouver ces formes-là dans beaucoup d'œuvres artistiques, par exemple les arches gothiques ont une forme d'arche vaginale. On va retrouver ça, par exemple, Napoléon avec l'arc de triomphe, un Napoléon qui veut absolument faire passer son armée sous un arc de triomphe. C'est très étonnant, je ne sais pas s'il est très conscient du jeu métaphorique qu'il fait avec ça. En tout cas, et là aussi, je ne suis pas très certain que le pilote d'avion qui veut faire passer son engin phallique entre les arches de l'arc de triomphe soit conscient de la métaphore avec laquelle il est en train de jouer. De même pour ça, et alors pareil, je me pose la question de la conquête de l'espace, c'est-à-dire que lorsqu'on lance des espèces de grosses phallus sur des colonnes de feu dans l'espace, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain déterminisme sexuel caché derrière? Alors, je ne sais pas si les scientifiques en ont conscience ou s'ils le font consciemment, hein, mais alors, par contre les artistes, eux, ça les éclate grave, hein, cette analogie formelle. Et bon, il y en a qui sont célèbres pour ça, comme Guiguerre, par exemple, avec ses personnages. Mais alors, je vais tout de suite aller vers les pulps, par exemple. On va retrouver dans les pulps hein, des analogies formelles assez classiques. Alors, je zappe pour aller direct à la conquête de l'espace, vous voyez, des images de pulps qui sont typiques de ces jeux d'analogies formelles, hein, des hommes attrapés par des plantes extraterrestres. Hein, la xénobiologie et la sexualité, à mon avis, ont beaucoup de choses à voir ensemble. Et puis, alors il n'est pas là, il devait être parmi nous. Tenez, regardez ça, c'est extraordinaire. Moi, je vous dis, voilà, là, vous avez une image, une métaphore de phallus en train de passer dans une vulve. Alors vous me dites, là, Yann, t'exagères, t'es quand même un peu un obsédé. Vraiment, tu pousses. Ah ouais, mais c'est quand même le même illustrateur qui fait ça. Hein, donc, et puis qui fait ça aussi. Voilà. Donc, on peut dire quand même que la conquête de l'espace stimule. Hein, Hubert de l'Artigue d'ailleurs, qui a fait, alors, je vous montre des dessins d'Hubert de l'Artigue. Philippe Caza, quand je lui ai posé la question, m'a dit oui, je t'envoie toutes les images, il n'y a pas de problème, il y a des relations explicites entre mes œuvres et la conquête de l'espace et la sexualité. Et là c'est Hubert de l'Artigue, un des grands illustrateurs de la SF française, qui lui aussi m'a dit que c'est très consciemment qu'il fait ce genre d'analogie dans ses œuvres. Et je vais même aller vous faire très vite un truc rigolo, c'est Alien. Hein, alors attendez. Alors Alien, c'est rempli de métaphores sexuelles quasi explicites tout le temps, mais il y en a qui sont subtiles, étonnamment, que j'ai mises en exergue. Alors je ne vais pas vous faire celle de... Hop, voilà. Alors un des premiers à jouer avec... Un des premiers, hein. Quelqu'un qui joue beaucoup avec ces métaphores-là, c'est évidemment Hitchcock, qui va dire la fin du film le plus impertinente que j'ai tourné, c'est la fin de la mort aux trousses. Et voici la fin de la mort aux trousses, c'est un train qui pénètre dans un tunnel. Alors, dans Alien... Je vais aller à cette scène-là, qui est très belle. Donc Ripley, qui est en train de découvrir que l'alien est caché dans la navette spatiale. On va avoir un plan très, très bien réglé, où elle va enfiler un scaphandre, avec la caméra qui descend pile pour être au bon endroit. C'est très synchronisé tout ça. Elle arme, et alors tout de suite après qu'on ait ce plan-là, on a l'alien qui a une érection de la mâchoire. Et elle va armer un lance-grappin phallique, lequel lance-grappin, lors de l'éjection, il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle va... tirer dans le nombril de l'alien, la porte va se fermer, bloquer le lance-grappin, tout ça pour avoir cette très belle image métaphorique de la naissance de l'alien, c'est-à-dire on a l'alien relié par son cordon ombilical avec la navette spatiale. Donc là encore, la conquête de l'espace et les métaphores sexuelles, avancent sexuelles ou de naissance en l'occurrence, avancent de pair. D'ailleurs c'est très étonnant parce qu'à ce moment-là, lors de l'éjection de l'alien, ce n'est pas des flammes qui sont jetées par le vaisseau, si vous regardez le film, mais de l'eau. Le vaisseau jette de l'eau, hein, comme les premières eaux. Donc, c'est assez intéressant parce que ça a été fait évidemment très consciemment par Ridley Scott. Donc ça, c'était les jeux de métaphores et d'associations d'idées qu'on peut faire. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait une relation entre la sexualité et la conquête de l'espace, en tout cas dans ses représentations, puisque comme je disais tout à l'heure, le moteur étant la perpétuation de l'espèce, la perpétuation du vivant, la sexualité est forcément un des moteurs intrinsèques, et il y a une pertinence, je dirais, une harmonie à associer conquête de l'espace et métaphore sexuelle. Alors, je pourrais rester très longtemps dans cette partie du nouvel, on va quitter cette partie-là, et alors là, je vais essayer, on va terminer là-dessus, parce que je voulais vous parler quand même des avatars. Ce que nous vivons actuellement de particulier, d'extraordinaire, c'est que le cyberespace va être pour nous une alternative à la conquête de l'espace. En attendant que nous puissions tous partir en autobus vers Mars ou vers la Lune, nous pouvons au moins déjà maintenant, grâce aux nouvelles technologies, nous projeter dans les mondes virtuels, dans ces mondes virtuels qui sont en train de se construire, et où nous pouvons avoir une entité, un cyborg. C'est-à-dire que l'avatar, c'est l'équivalent du golem ou du cyborg. C'est-à-dire que c'est une créature artificielle faite de pixels, à notre image, qui va évoluer dans un environnement différent, téléopéré, dans un environnement différent. Et il se répand, c'est-à-dire nous commençons tous à avoir, pour la plupart, soit des avatars, soit des entités dans les réseaux sociaux numériques qui construisent et qui vivent. Alors, ce qui est génial, c'est que je ne pensais pas que je pouvais me connecter sur Second Life en Wi-Fi. Mais ça marche, vous voyez. Donc, je viens d'émerger dans Second Life avec mon avatar. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, justement, Second Life. Second Life, donc, voici un monde que j'ai créé dans Second Life. Alors, là, par contre, voilà. Donc, là, je peux bouger la caméra. Donc, voici mon avatar. Je vais tourner autour. C'est, en l'occurrence, là, mon avatar de petit vieux cyberpunk. J'aime bien mon avatar de petit vieux cyberpunk. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec, on peut choisir le genre de notre avatar, l'allure de notre avatar. Donc parmi tous mes avatars, j'ai aussi un avatar féminin. C'est-à-dire on peut jouer, je rejoins donc la démarche et l'idée qu'il y a derrière le manifeste du cyborg de Donna Haraway. Donc je me suis créé un avatar féminin. Et alors là, c'est pas du tout innocent, enfin je veux dire, c'est pas neutre, le fait que nous ayons des avatars et que nous puissions jouer avec ces avatars. Parce que la différence qu'il y a entre écrire un personnage de fiction, donc j'étais très très loin dans Second Life, j'ai passé 2 ans immergé dans Second Life, et j'ai une amie d'ailleurs qui est en train de faire une démarche similaire, Claire Sistache, qui est en train de s'immerger dans WoW, mais vraiment à forte densité. Ce qui se passe et qui est important dans l'histoire des... Donc je vais terminer là-dessus. Alors quel rapport entre les avatars et la conquête de l'espace? Déjà, la conquête de l'espace a fabriqué des premiers avatars. On n'aura peut-être pas le temps de le... Si, je vous le montre quand même. C'est-à-dire, j'avais fait un documentaire il y a quelques années au CNES, justement, j'avais eu le plaisir de venir ici, et j'avais filmé un robot martien. Et j'étais très, très, très touché par ce robot martien, qui s'appelle Eve. Donc, et le problème qu'il y a entre... Alors là, c'était entre la Terre et la Lune, qu'ils étaient en train de faire la simulation, mais ça peut être entre Mars et la Terre, voilà, ça, on va voir ça. C'est que le robot, le problème, c'est qu'il y a une latence très forte. C'est-à-dire le temps qu'on envoie les informations et qu'elles reviennent, il va se passer entre 6 secondes pour la Terre et la Lune ou 20 minutes entre la Terre et Mars. Donc on peut se dire, avoir des cosmonautes connectés sur des réseaux sociaux numériques, ça va quand même être assez laborieux. C'est-à-dire s'il y a 20 minutes de latence entre les mouvements des avatars, ça ne va pas être évident. Mais en tout cas, c'est à mon avis possible d'utiliser les mêmes technologies, mais un peu plus sophistiquées, qui a été utilisées à l'époque pour Ockness, pour ce robot Eve, c'est-à-dire que le robot fait de la prédiction. C'est-à-dire le robot qui est téléopéré, donc c'est un avatar, qui est téléopéré sur la Lune ou sur Mars, va analyser tout seul dans son coin le terrain dans lequel il est, avancer, et à intervalles réguliers, il va envoyer les informations sur Terre, ou sur Terre, on va simuler sa trajectoire, et régulièrement, les événements vont être rafraîchis, ce qu'expliquent les chercheurs actuellement. Et alors, il y a un phénomène extraordinaire dans Second Life qui ressemble à ça, c'est pour ça que ça m'a frappé, c'est qu'on a le même phénomène, c'est-à-dire que là, je téléopère un avatar, mais en fait, cet avatar avance dans le monde virtuel, et régulièrement, je vais avoir un phénomène de rafraîchissement lié aux événements qui se produisent. Alors, je vais voler, parce que ça va aller un peu plus vite, alors c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut voler dans le monde virtuel. Alors, regardez, je vais passer la frontière d'un serveur, et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce robot Eve. Là, je vais marcher, on va marcher sous l'eau, parce que bon, voilà, et je vais franchir une frontière. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a une frontière, c'est une frontière entre deux serveurs. Et il y a un moment, au moment où je vais franchir cette frontière, et c'est comme sur Mars, mon avatar va perdre la connexion, parce que voilà, je viens de la franchir, alors là, très mauvaise démonstration, on a un Wi-Fi merveilleux ici, j'ai pas eu de latence. Donc mon avatar n'a pas vécu tout ça. Mais de temps en temps, pour ceux qui connaissent le monde virtuel, votre avatar continue à vivre sa vie le temps que le serveur renvoie l'information de sa véritable géolocalisation dans le monde virtuel. Et alors pour terminer sur les avatars, ce qui se produit dans ce que je voulais vous raconter, c'est que nous sommes en train de nous construire des identités. Ah ben vous voyez, voilà. Là, il est bloqué, c'est-à-dire que pour l'instant, l'information dans laquelle il est n'est pas revenue du serveur, et vous allez voir, à un moment, l'information va arriver, et l'avatar va se remettre dans le chemin. Donc on peut imaginer un futur où, pour communiquer avec les cosmonautes, à cause du phénomène de latence, on communique par avatar interposé qui s'échange des informations. Et alors donc, pour terminer sur ces avatars, le phénomène étrange des avatars, c'est que les Japonais appellent ça la dividuation, c'est-à-dire que nous sommes tous convaincus d'être des individus, d'avoir une seule individualité. En fait, en réalité, selon que vous parlez avec vos parents, vos grands-parents, au travail ou avec vos proches, nous sommes différents. Nous avons plusieurs individualités qui composent le moi. Et lorsque vous créez un avatar, lorsque vous créez un personnage de fiction, moi je suis auteur de fiction, il va vivre sa vie dans ma tête, mais une fois que je l'ai rédigé, bon, ça s'appelle un plantage. D'ailleurs, ils me disent « Zut, vous avez été déconnecté, c'est nouveau comme formulation, mais bon. » voilà. Et donc je termine là-dessus. Lorsque vous créez un personnage de fiction, le fait que nous utilisions des avatars qui vivent dans des mondes virtuels, donc des alternatives à la conquête de l'espace en attendant qu'on nous emmène là-haut, nos avatars ont immédiatement une vie sociale. C'est-à-dire, immédiatement, ils se retrouvent en relation avec d'autres humains avec qui ils communiquent, ils discutent et ils se construisent une vie sociale. Ce qui est très différent lorsque nous créons des personnages de fiction qui sont figés dans le roman ou figés dans la BD ou figés dans le film, à part Sherlock Holmes ou Buffy qui vont évoluer tout doucement comme des plantes au fil des allers-retours avec leurs fanfics, hein, avec les amateurs. Notre personnage avatar commence à se construire une identité sociale immédiatement. Et ça veut dire que nous nous développons dans le monde, dans le cyberespace, nous commençons à créer de nouvelles individuations, des nouveaux individus qui peuvent être très différents de nous-mêmes. Et parfois, si on est vraiment très très immergé de façon très intense, on peut avoir le même phénomène que le cosmonaute coincé dans sa capsule qu'a un épisode psychotique grave, c'est que tout d'un coup, ce individu peut prendre vie, devenir autonome, commencer à nous engueuler et à vouloir se séparer de notre identité biologique. Donc ça m'est arrivé, ça arrivait à certaines autres personnes, donc c'est passionnant. Et quand j'en parlais à Nicolet, qui est un des grands illustrateurs de la science-fiction, celui-ci m'a dit « Ah ben oui, bien sûr, mais je connais ça très bien, hein, en gros. » Il m'a dit « Bah oui, tu as créé un golem, vous connaissez le golem, qui est un cyborg, hein, mais qui est un des précurseurs du cyborg. Tu as créé un golem, c'est pas très grave, mais si il y a plusieurs personnes, donc une communauté qui contribue à l'existence, à créer une existence à cet avatar, une existence virtuelle, ça devient un égrégore. Un égrégore qui est une entité psychique créée par le collectif, qui est un vieux truc de magie très ancienne. Donc voilà, un des dangers, c'est que nous risquons d'avoir des cosmonautes qui partent dans l'espace, mais qui seront accompagnés d'une foule d'avatars, de nos individualités ou de individualités qui peupleront les futures colonies. Voilà, merci.